Chapitre 14. Le voleur. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Harry fut ébloui par une clarté vert et or. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il savait seulement qu'il était étendu sur une couche de feuilles et de brindilles. S'efforçant à grand-peine de faire entrer un peu d'air dans ses poumons qui lui donnait l'impression d'avoir été écrasé, il cligna des yeux et s'aperçut que cette lumière étincelante était celle du soleil traversant une voûte de feuillage loin au-dessus de lui. Quelque chose remua alors tout près de son visage. Il se releva à quatre pattes, prêt à affronter une féroce petite créature, mais il s'agissait en fait du pied de Ron. Regardant autour de lui, Harry vit qu'ils avaient atterri tous les trois sur le sol d'une forêt où ils étaient apparemment seuls. Harry pensa tout d'abord à la forêt interdite, et pendant un instant, même s'il savait à quel point il serait stupide et dangereux pour eux d'apparaître dans l'enceinte de Poudlard, il se sentit le cœur léger à l'idée de se faufiler parmi les arbres jusqu'à la cabane de Hagrid. Dans les quelques secondes qui suivirent, cependant, alors que Ron émettait un grognement et que Harry rampait vers lui, il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de la forêt interdite. Les arbres paraissaient plus jeunes, plus largement espacés, le sol plus dégagé. Il se retrouva devant Hermione, également à quatre pattes, qui regardait la tête de Ron. Lorsqu'il le vit à son tour, Harry en oublia tous ses autres soucis. Son corps était trempé de sang sur tout un côté et le sol recouvert de feuilles faisait ressortir la blancheur grisâtre de son teint. Les effets du polynectar s'estompaient. L'apparence de Ron se transformait à mi-chemin entre celle de Cattermole et la sienne, ses cheveux devenant de plus en plus roux tandis que son visage se vidait de ses ultimes traces de couleur. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»«
Désarticulé !»
expliqua Hermione, dont les doigts s'affairaient déjà à l'endroit de sa manche où le sang était plus sombre et plus humide. Harry, horrifié, la regarda déchirer la chemise de Ron. Il avait toujours considéré le désartibulement comme un phénomène comique, mais là, il sentit ses entrailles se contracter lorsqu'elle dénuda le bras de Ron, sur lequel un gros morceau de chair manquait, comme découpé par un couteau.
« Harry, vite, dans mon sac, il y a un petit flacon marqué « Essence de dictam ».»«
Le sac, d'accord. » Harry se roua à l'endroit où Hermione avait atterri, prit le minuscule sac et y plongea la main. Il sentit une multitude d'objets défiler sous ses doigts. Des reliures en cuir, des manches de pull en laine, des talons de chaussures.
« Vite !»
Il ramassa sa baguette tombée par terre et la pointa vers les profondeurs du sac magique. « Accio dictam !» Une petite bouteille marron jaillit aussitôt. Il l'attrapa et revint auprès d'Hermione et de Ron, dont les yeux étaient à présent mi-clos, ses globes oculaires ne laissant plus voir qu'un trait blanc entre ses paupières.
« Il s'est évanoui !»
dit Hermione, elle-même plutôt pâle. Elle ne ressemblait plus à Mafalda, mais ses cheveux restaient gris par endroits.
« Ouvre-le pour moi, Harry, j'ai les mains qui tremblent !»
Harry arracha le bouchon qui fermait le flacon. Hermione le prit et versa trois gouttes de potion sur la blessure ensanglantée. Une fumée verdâtre s'éleva. Lorsqu'elle se dissipa, Harry vit que le sang avait cessé de couler. La plaie semblait à présent datée de plusieurs jours. Une peau neuve s'étirait à l'endroit où la chair avait été déchirée.
« Waouh !» s'écria Harry.
« C'est la seule chose que je puisse faire en toute sécurité, » dit Hermione d'une voix tremblante. « Il existe des sortilèges qui le guériraient complètement, mais je n'ose pas les appliquer. Si je me trompe, je causerai encore plus de dégâts. Il a déjà perdu tellement de sang. »
« Mais comment a-t-il été blessé ?»
Harry secoua la tête pour essayer de s'éclaircir les idées, de comprendre ce qui venait de se passer.
« Et d'abord, pourquoi sommes-nous ici ?
Je croyais que nous devions revenir Square Grimoire. »
Hermione prit une profonde inspiration. Elle paraissait au bord des larmes.
« Harry, je pense que nous ne pourrons plus retourner là-bas. »«
Qu'est-ce que tu... » ?»«
Au moment où nous avons transplané, Yaxley m'a attrapé le bras et je n'ai pas réussi à me dégager. Il était trop fort. » Il me tenait toujours à notre arrivée au Square Grimoire. Je crois qu'il a dû voir la porte en pensant que c'était notre destination. Alors, il a relâché sa prise J'ai réussi à me libérer et je vous ai emmené ici.
Dans ce cas, où est-il?
Attends.
Tu ne veux pas dire qu'il est resté Square Grimaud? Tu crois qu'il pourrait entrer dans la maison?
Hermione acquiesça d'un signe de tête, les yeux brillants de larmes qui ne coulaient pas.
Je crois que oui, Harry. Je l'ai forcé à me lâcher à l'aide d'un maléfice de répulsion. Mais nous étions déjà dans le champ d'action du sortilège de Fidelitas. Depuis la mort de Dumbledore, nous sommes devenus les gardiens du secret. Je lui ai donc livré ce secret, n'est-ce pas?
Il était inutile de se cacher la vérité. Harry savait qu'elle avait raison. C'était un coup très dur. Si Yaxley pouvait désormais pénétrer dans la maison, il leur était impossible d'y revenir. En ce moment même, peut-être, y amenait-il d'autres mange-morts par transplanage. Si oppressante et sinistre qu'elle fût, la maison leur avait offert jusqu'à présent un refuge sûr. Et même, maintenant que Créature était tellement plus heureux et amical, une sorte de foyer. Avec une pointe de regret qui ne devait rien à la gastronomie, il imagina l'elfe de maison s'affairant à la préparation d'une tourte au bœuf et aux rognons que Harry, Ron et Hermione ne mangeraient jamais.
« Harry, je suis désolée. Vraiment désolée. »
« Ne sois pas stupide, ce n'était pas ta faute. Si quelqu'un est responsable, ce serait plutôt moi. »
Harry glissa une main dans sa poche et en sortit l'œil magique de Maugrey.
Hermione, horrifiée, eut un mouvement de recul.
Ombrage l'avait collé à la porte de son bureau pour espionner ses employés. Je ne pouvais pas le laisser là.
Mais c'est comme ça qu'ils se sont aperçus de la présence d'intrus.
Avant qu'Hermione n'ait pu répondre, Ron poussa un grognement et ouvrit les yeux. Il avait toujours le teint grisâtre et son visage luisait de sueur.
« Comment tu te sens ?»
murmura Hermione.
« Lamentable !» croissa Ron.
Il tâta son bras blessé et fit une grimace.
« Où sommes-nous ?»«
Dans les bois où s'est tenue la Coupe du Monde de Quidditch, » répondit Hermione. « Je voulais un endroit clos, à l'écart, et c'est... »«
Le premier auquel tu as pensé ?» acheva Harry à sa place, en regardant la clairière apparemment déserte.
Il ne put s'empêcher de repenser à ce qui était arrivé la dernière fois qu'ils avaient transplané dans un lieu choisi par Hermione, à la façon dont les mange-morts les avaient retrouvés en quelques minutes. Était-ce de la légilimancie? Voldemort et ses hommes de main savaient-ils en ce moment même où Hermione les avait emmenés?
Tu ne crois pas qu'on devrait aller ailleurs? Demanda Ron à Harry. En voyant l'expression de son visage, Harry comprit qu'il pensait la même chose que lui.
Je ne sais pas.
Ron n'était toujours pas les moites. Il n'avait même pas essayé de se redresser et semblait trop faible pour cela. La perspective de devoir le déplacer à nouveau avait de quoi les décourager.
Restons ici pour l'instant, dit Harry.
Soulagé, Hermione se releva d'un bond.
« Où vas-tu ? »
demanda Ron.
« Si nous restons, il faut jeter quelques sortilèges de protection autour de nous, » répondit-elle.
Elle brandit sa baguette et décrivit à pas lents un large cercle autour de Harry et de Ron en marmonnant des incantations. Harry remarqua de petites perturbations dans l'atmosphère. On aurait dit qu'Hermione avait fait naître une brume de chaleur sur leur clairière.
« Salveo maleficia, protego totalum, repello moldum, assurdiato. » « Tu peux sortir la tente, Harry ?»«
La tente ?»«
Dans le sac ?»«
Dans le...
Ah, »« Ah, oui, bien sûr !» Cette fois, Harry ne se donna pas la peine de tâtonner dans le sac. Il utilisa tout de suite un sortilège d'attraction. La tente apparut sous la forme d'un gros tas de toiles, de cordes et de piquets. Harry la reconnut aussitôt, notamment à cause de son odeur de chat. C'était celle sous laquelle ils avaient dormi la nuit précédant la Coupe du Monde de Quidditch.
« Elle n'appartenait pas à un employé du ministère du nom de Perkins ?» demanda Harry en démêlant les sardines de la tente.
« Si, mais apparemment il n'en veut plus, son lumbago ne s'arrange pas, »
répondit Hermione, occupée à réaliser avec sa baguette une figure complexe en 8 mouvements.
« Le père de Ron a donc dit qu'on pouvait l'emprunter. Erijo !»
ajouta-t-elle, sa baguette pointée sur la toile informe qui, dans un mouvement fluide, s'éleva toute seule et s'installa sur le sol, toute montée devant Harry. Ébahi, il vit une sardine lui sauter des mains et se planter toute seule dans un bruit mat à l'extrémité d'une corde.
« Cave inimicum !»
dit enfin Hermione avec un gracieux mouvement de baguette en direction du ciel. « Voilà tout ce que je peux faire. Au moins, on devrait être averti si jamais ils viennent. Je ne peux pas garantir que ça suffira à éloigner vos... »«
Ne prononce pas ce nom !»
l'interrompit Ron d'un ton brusque. Harry et Hermione échangèrent un regard. « Je suis désolé, » dit Ron, gémissant un peu lorsqu'il se redressa pour mieux les voir. « Mais j'ai l'impression que c'est devenu un maléfice ou quelque chose comme ça. On pourrait pas l'appeler « Tu sais qui, s'il vous plaît ?»
Dumbledore disait que la peur d'un nom, commença Harry, « au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, mon vieux, appeler « Tu sais qui » par son nom n'a pas fait beaucoup de bien à Dumbledore à la fin, »
répliqua sèchement Ron.
« Essaye de montrer un peu de respect envers « Tu sais qui », tu veux bien ?»«
Du respect ?» répéta Harry.
Mais Hermione l'avertit d'un coup d'œil qu'il valait mieux ne pas discuter avec Ron tant qu'il se trouvait dans cet état de faiblesse. Harry et Hermione le portèrent dans la tente en le traînant à moitié. L'intérieur était exactement tel que s'en souvenait Harry. Un petit appartement avec une salle de bain complète et une minuscule cuisine. Il repoussa un vieux fauteuil et allongea Ron précautionneusement sur la couchette inférieure de lit superposé. Même très court, ce déplacement avait rendu Ron encore plus pâle et dès qu'ils l'eurent installé sur le matelas, il referma les yeux et resta silencieux un bon moment.
« Je vais faire du thé !»
proposa Hermione essoufflée en sortant de son sac une bouilloire et des tasses qu'elle emporta dans la cuisine. Harry trouva le thé aussi bienvenu que l'avait été le whisky pur feu la nuit où Foleuil était mort. Sa chaleur semblait chasser un peu la peur qu'il sentait frémir dans sa poitrine. Une minute plus tard, Ron rompit le silence.
À votre avis, qu'est-ce qui est arrivé aux Quatermolles ?
Avec un peu de chance, ils s'en sont sortis, répondit Hermione, serrant sa tasse contre elle pour se réconforter.
Si M. Quatermolle a eu suffisamment de sang-froid, il a dû transporter sa femme par transplanage d'escorte et ils vont tout de suite quitter le pays avec leurs enfants. C'est ce que Harry lui a dit de faire.
« Par Merlin, j'espère qu'ils ont réussi à s'enfuir !» dit Ron en s'appuyant contre ses oreillers.
Apparemment, le thé lui faisait du bien. Son visage avait retrouvé un peu de couleur.
« Mais j'ai pas eu l'impression que ce règle Quatermolle avait l'esprit très vif, d'après la façon dont tout le monde me parlait quand j'avais son apparence. Mon Dieu, j'espère qu'ils ont pu filer. S'ils finissent tous les deux à Azkaban à cause de nous !»
Harry se tourna vers Hermione, mais la question qu'il s'apprêtait à lui poser... Pour lui demander si le fait que Mrs. Quatermolle n'ait plus sa baguette pouvait l'empêcher de transplaner aux côtés de son mari, resta coincé dans sa gorge. Hermione regardait Ron s'inquiéter du sort des Quatermolles avec une telle tendresse que Harry eut presque l'impression de l'avoir surprise en train de l'embrasser.
« Alors tu l'as ?»
lui demanda Harry en partie pour lui rappeler qu'il était là.
« J'ai quoi ?»
répondit-elle en sursautant légèrement.
Ben, « Pourquoi crois-tu qu'on se soit donné tant de mal ?»«
Le médaillon, bien sûr. Où est le médaillon ?»«
Vous l'avez ?»
s'écria Ron qui se redressa un peu plus sur ses oreillers.
« Personne ne me dit rien. Enfin quoi, vous auriez pu m'en parler ?»«
Je te rappelle qu'on avait les mange-morts à nos trousses, »
répliqua Hermione. « Tiens. » Elle sortit le médaillon d'une poche de sa robe et le lui tendit. Il avait la taille d'un œuf de poule. La lettre S, délicatement ouvragée, était sertie de petites pierres vertes qui luisaient faiblement sous la lumière diffuse filtrée par la toile de la tente.
« Tu penses pas que quelqu'un aurait pu le détruire depuis que Créature l'a récupéré ?»
demanda Ron avec espoir.
« Peut-on être sûr que c'est toujours un Horcrux ?»«
Je crois que oui, » répondit Hermione en le lui reprenant des mains pour l'examiner attentivement. « S'il avait été détruit par magie, il serait abîmé. » Elle le donna à Harry qui le retourna entre ses doigts. L'objet paraissait parfait, comme dans son état d'origine. Il se rappela les pages transpercées du journal de Zedusor et la pierre de la bague Horcrux qui s'était fendue lorsque Dumbledore l'avait détruite.
« Je pense que Créature a raison, » dit Harry.
« Il faut trouver le moyen de l'ouvrir avant de pouvoir l'anéantir. » Au moment où il prononçait ces mots, Harry prit soudain conscience de ce qu'il tenait entre les mains. De ce qui vivait derrière ce petit ovale d'or. Même après tous les efforts qu'ils avaient dû déployer pour le retrouver, il éprouvait un désir violent de jeter le médaillon au loin. Parvenant à se maîtriser, il tenta de le forcer avec les doigts, puis essaya la formule dont Hermione s'était servie pour ouvrir la porte de la chambre de Régulus, sans résultat. Il rendit le médaillon à Ron et à Hermione, qui firent de leur mieux, mais n'eurent pas plus de succès.
« Tu le sens ?»
demanda Ron à voix basse, en serrant le médaillon dans son poing. « Je sens quoi ?» Ron lui passa leur crux. Au bout d'un moment, Harry crut comprendre ce que Ron voulait dire. Était-ce son propre sang qu'il sentait palpiter dans ses veines, ou bien y avait-il quelque chose qui battait à l'intérieur du médaillon, tel un minuscule cœur de métal ?
« Qu'est-ce qu'on va en faire ?»
interrogea Hermione. « Le mettre en sûreté en attendant de trouver le moyen de le détruire, » répondit Harry. Bien qu'il n'en eût aucune envie, il passa la chaîne autour de son cou et cacha le médaillon sous sa robe où il reposa contre sa poitrine, à côté de la bourse offerte par Hagrid.
« Je pense que nous devrions monter la garde à tour de rôle devant la tente, » reprit-il à l'adresse d'Hermione.
Il se leva et s'étira. « Il faudra aussi nous occuper de trouver quelque chose à manger. « Toi, tu restes ici, » ajouta-t-il d'un ton sans réplique lorsqu'il vit Ron se redresser dans son lit et son teint prendre aussitôt une horrible couleur verdâtre. Après avoir soigneusement installé sur la table le scrutoscope qu'elle lui avait offert pour son anniversaire, Harry et Hermione partagèrent les tours de garde pendant le reste de la journée. Le scrutoscope resta silencieux et immobile. En dehors de quelques oiseaux et écureuils, leur coin de forêt demeura vide, soit en raison des enchantements protecteurs et des sortilèges, repousse moldus, qu'Hermione avait jetés autour d'eux, soit tout simplement parce qu'il était rare que des promeneurs s'aventurent de ce côté. La soirée n'apporta aucun changement. Lorsqu'à 10 heures, il changea de place avec Hermione, Harry alluma sa baguette et resta là à contempler les lieux déserts, ne remarquant que le passage des chauves-souris qui voltaient loin au-dessus de sa tête, dans la seule partie du ciel étoilé qu'on pouvait apercevoir à l'abri de cette clairière. Il avait faim à présent, et la tête lui tournait un peu. Hermione n'avait pas emporté de provisions dans son sac magique, car elle avait pensé qu'il reviendrait ce soir-là, Square Grimord. Il n'avait donc rien mangé, en dehors de quelques champignons sauvages qu'elle avait ramassés parmi les arbres proches et fait cuire dans un faitout. Après en avoir avalé 2 bouchées, Ron avait renoncé à sa part, l'air dégoûté. Harry n'avait mangé la sienne jusqu'au bout que pour éviter de vexer Hermione. Seuls d'étranges bruissements et des craquements de brindilles brisaient de temps en temps le silence environnant. Harry pensait qu'ils étaient dus plus à des animaux qu'à des hommes. Mais il n'en gardait pas moins sa baguette prête pour parer à toute éventualité. Un sentiment de malaise remuait ses entrailles, déjà mises à mal par les champignons caoutchouteux. Il avait cru qu'il serait enchanté d'avoir récupéré leur crux, mais d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Tout ce qu'il éprouvait, assis dans l'obscurité, dont sa baguette n'éclairait qu'une minuscule partie, c'était l'appréhension de ce qui allait se passer par la suite. Comme si, pendant des semaines, des mois, des années peut-être, il s'était rué en avant pour en arriver là, puis s'était retrouvé brutalement immobilisé, sans plus savoir quel chemin prendre. Il y avait d'autres horcruxes quelque part, mais il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où ils pouvaient se trouver. Il ignorait même quelle forme ils avaient. Et, en attendant, il ne savait même pas comment détruire le seul qui était en leur possession, le médaillon qu'il sentait contre sa poitrine nue. Curieusement, l'objet ne s'était pas réchauffé au contact de son corps. Il était si froid contre sa peau qu'il donnait l'impression de sortir d'une eau glacée. De temps en temps, Harry croyait percevoir, ou peut-être était-ce son imagination, l'infime pulsation qui battait irrégulièrement en même temps que son propre cœur. D'indéfinissables pressentiments s'insinuaient en lui tandis qu'il restait assis là dans l'obscurité. Il essayait d'y résister, de les repousser, mais il revenait inlassablement à la charge. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ron et Hermione, qui parlaient à présent à voix basse dans la tente, pouvait partir à tout moment, s'il le voulait. Pour lui, c'était impossible, et pendant que Harry s'efforçait de maîtriser sa peur, son épuisement, il lui semblait que l'horcrux marquait de son battement contre sa poitrine le temps qui lui restait. « Une idée stupide, se dit-il. Il ne faut pas penser des choses pareilles. » Sa cicatrice recommençait à le picoter. Il avait peur que cette sensation soit provoquée par ses pensées et il essaya de les orienter ailleurs. Il songea aux malheureux créatures qui les attendaient à la maison et avaient vu arriver Yaxley à leur place. L'elfe tiendrait-il sa langue ou révélerait-il au mange-mort tout ce qu'il savait? Harry voulait croire que l'attitude de créature à son égard avait changé au cours du mois écoulé, qu'il se montrerait loyal à présent, mais qui pouvait savoir ce qui se passerait? Et si les mange-morts le torturaient? Des images répugnantes grouillaient dans sa tête, et il essaya de les repousser, elles aussi, car de toute façon, il ne pouvait rien faire pour créature. Hermione et lui avaient déjà pris la décision de ne pas essayer de le faire venir si quelqu'un du ministère l'accompagnait. Il ne pouvait être sûr que le transplanage d'elfes soit à l'abri du même inconvénient qui avait amené Yaxley accroché à la manche d'Hermione au square Grimmauld. La cicatrice de Harry le brûlait à présent. Il y avait tant de choses qu'il ignorait. Lupin avait raison lorsqu'il parlait d'une forme de magie qu'il n'avait jamais connue ou même imaginée. Pourquoi Dumbledore ne s'était-il pas expliqué davantage? Pensait-il qu'il en aurait toujours le temps? Qu'il vivrait des années, des siècles peut-être, comme son ami Nicolas Flamel? En ce cas, il s'était trompé. Rogue y avait veillé. Rogue, le serpent endormi, qui avait frappé au sommet de la tour. Et Dumbledore? Dumbledore était tombé, tombé.
« Donne-moi ça, Grégorovitch !»
La voix de Harry était devenue aiguë, tranchante et glaciale. Une main blanche, aux longs doigts, levait devant lui sa baguette. L'homme sur lequel il la pointait était suspendu dans les airs, la tête en bas, mais sans qu'aucune corde ne le retienne. Il se balançait là, attaché par de sinistres liens invisibles, ses bras entourant sa poitrine, son visage terrifié, juste à la hauteur de celui de Harry. Les joues rougies par le sang qui affluait à sa tête. Il avait des cheveux d'un blanc immaculé et une barbe épaisse, broussailleuse. On aurait dit un Père Noël ficelé comme une volaille.
« Je ne plus la voir, ne plus la voir, et c'était volé à moi, il y a beaucoup d'années.
« Ne mens pas à Lord Voldemort, Grégorovitch, il sait toujours. »
Les pupilles de l'homme suspendu étaient dilatées par la peur. Elles semblèrent s'élargir encore, devenir de plus en plus béantes, au point que leur obscurité avala Harry tout entier. À présent, il avançait à grands pas le long d'un couloir, derrière la petite silhouette corpulente de Grégorovitch qui tenait haut une lanterne. Celui-ci fit irruption dans une pièce située au bout du couloir et sa lanterne illumina ce qui semblait un atelier. Des copeaux de bois et de la poussière d'or brillaient dans le cercle de lumière qui se balançait. Et là, sur le rebord d'une fenêtre, un jeune homme, aux cheveux d'un blond doré, était assis, perché, à la manière d'un oiseau géant. La lanterne l'éclaira pendant une fraction de seconde, et Harry vit une expression réjouie sur son beau visage. Puis, l'intrus lança du bout de sa baguette magique un sortilège de stupéfaction et fit un grand saut en arrière, s'enfuyant par la fenêtre dans un éclat de rire rauque. Harry se précipita hors du tunnel que formaient les larges pupilles et vit le visage de Grégorovitch frappé de terreur.
« Qui était le voleur, Grégorovitch ?»
demanda la voix aiguë et glacée.
« Je ne sais pas, je n'ai jamais su, un jeune homme. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît !»
Le cri se prolongea longtemps, longtemps. Puis il y eut un éclair de lumière verte.
« Harry ?»
Il ouvrit les yeux pantelants, le front palpitant de douleur. Il s'était évanoui contre la toile de la tente et avait glissé sur le sol où il était allongé les bras en croix. Il leva les yeux vers Hermione, dont les cheveux ébouriffés masquaient le petit coin de ciel visible parmi les branches hautes et sombres qui s'étendaient au-dessus d'eux. « Mauvais rêve, » dit-il. Il se redressa et s'efforça de répondre au regard noir d'Hermione par un air d'innocence.
« J'ai dû m'assoupir. Désolé. Je sais que c'était ta cicatrice. Je le vois à ton visage. Tu étais encore en train de regarder dans la tête de... »«
Ne prononce pas son nom !» l'interrompit la voix furieuse de Ron au fond de la tente.
« D'accord, » répliqua Hermione. « Dans la tête de tu sais qui. »
Je ne l'ai pas fait exprès, » assura Harry. « C'était un rêve. Tu arrives à contrôler tes rêves, toi ?»«
Si seulement tu apprenais à te servir de l'occlumensie. »
Mais Harry n'avait aucune envie de subir des réprimandes. Il voulait parler de ce qu'il venait de voir.
« Il a retrouvé Gregorovitch, Hermione. Et je crois qu'il l'a tué. Mais avant, il a lu dans ses pensées, et j'ai vu. « Je crois que je ferais bien de te remplacer, si tu es trop fatigué pour rester éveillé, » répliqua Hermione d'un ton froid. « Je peux finir mon tour de garde. »«
Non, de toute évidence, tu es épuisé. Va te coucher. »
Elle s'assit par terre à l'entrée de la tente, la mine obstinée, en colère, mais soucieux d'éviter une dispute. Harry se baissa et retourna à l'intérieur. Le visage toujours blafard de Ron lui apparut sur la couchette du bas. Harry grimpa sur le lit supérieur, s'allongea et contempla le plafond de toile, plongé dans le noir. Quelques instants plus tard, Ron parla à voix si basse qu'Hermione pelotonnée à l'entrée ne pouvait l'entendre.
« Et qu'est-ce que faire ? Tu sais qui ?»
Harry plissa les yeux dans un effort pour se souvenir de tous les détails, puis il murmura dans l'obscurité.
« Il a retrouvé Gregorovitch. Il l'a ligoté. Et il était en train de le torturer. Mais comment Gregorovitch peut-il lui fabriquer une nouvelle baguette s'il est attaché ?»«
Je sais pas.
Bizarre, non ?»
Harry ferma les yeux, repensant à tout ce qu'il avait vu et entendu. Plus il se rappelait, moins il comprenait. Voldemort n'avait rien dit de la baguette de Harry, rien de leur plume de phénix jumelle, rien d'une nouvelle baguette plus puissante que Gregorovitch aurait pu lui fournir pour le vaincre.
« Il exigeait quelque chose qui appartenait à Gregorovitch, » poursuivit Harry, les yeux toujours étroitement fermés. Il lui a demandé de lui donner ce qu'il voulait, mais Gregorovitch a répondu que quelqu'un l'avait volé. Et ensuite... Ensuite,
il se rappela comment dans la tête de Voldemort, il avait eu l'impression de plonger dans les yeux mêmes de Gregorovitch pour atteindre ses souvenirs.
Il lisait dans ses pensées, et j'ai vu un jeune type perché sur le rebord d'une fenêtre. Il a jeté un sortilège à Gregorovitch et s'est enfui en sautant dehors. Il a volé ce que cherche tu sais qui, et je crois avoir déjà vu ce personnage quelque part. »
Harry aurait voulu apercevoir à nouveau le visage hilar du jeune homme. Le vol avait eu lieu bien des années auparavant, selon Gregorovitch. Pourquoi le voleur lui avait-il paru si familier ? Les sons, en provenance des bois environnants, étaient étouffés sous la tente. Harry n'entendait plus que la respiration de Ron. Au bout d'un moment, celui-ci murmura :
Tu n'as pas pu voir ce que le voleur avait à la main ?
Non. Ce devait être quelque chose de tout petit.
Harry !
Ron changea de position et les lattes de bois de son lit craquèrent.
Harry, tu ne crois pas que tu sais qui pourrait faire faire un autre objet pour le transformer en horcruxe ?
Je ne sais pas,
répondit lentement Harry.
Peut-être, mais ne serait-ce pas dangereux pour lui d'en fabriquer un nouveau ? Hermione nous a dit qu'il avait déjà poussé son âme jusqu'aux extrêmes limites.
Ouais, mais peut-être ne le sait-il pas ?
Ouais, peut-être,
admit Harry. Il avait la certitude que Voldemort avait cherché le moyen de contourner le problème des deux plumes de phénix,
qu'il avait pensé trouver la solution auprès du vieux fabricant de baguettes. Et pourtant, il l'avait tué, apparemment sans lui poser une seule question en matière de baguettes magiques. Qu'est-ce que Voldemort essayait de trouver ? Pourquoi, maintenant qu'il avait le ministère de la magie et le monde des sorciers à ses pieds, était-il parti au loin, résolu à s'emparer d'un objet que Grégorovitch avait eu autrefois en sa possession et qui lui avait été dérobé par ce voleur inconnu. Harry revoyait le visage du jeune homme aux cheveux blonds qui semblait fou de joie. Il y avait quelque chose de Fred et de George dans cet air de ruse triomphante. Il s'était envolé par la fenêtre à la manière d'un oiseau et Harry avait déjà vu cette tête, mais il ne savait plus où. Grégorovitch mort, c'était maintenant le voleur au visage réjoui qui était en danger. Et ce fut sur lui que les pensées de Harry s'attardèrent, tandis que les ronflements de Ron montaient de la couchette inférieure et que lui-même se laissait à nouveau emporter lentement par le sommeil.